Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale consacrée cette semaine aux droits des enfants. Avec la ratification par le Costa Rica le 14 janvier 2014 du troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, ce dernier entrera en vigueur le 14 avril prochain. Ce protocole donne aux enfants qui ont épuisé toutes les voies de recours juridiques dans leur propre pays la possibilité de saisir le Comité des droits des enfants de l'ONU. Pour en savoir plus sur la portée de cet outil juridique en faveur des enfants, nous recevons Marta Santos Pais, la représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question de la violence à l'encontre des enfants. Bonne écoute.
C'est vraiment une journée de fête. C'est très important que la ratification du Costa Rica ouvre la porte à l'entrée en vigueur de ce troisième protocole à la Convention des droits de l'enfant. Et cette ratification ait lieu de façon très spéciale pendant l'année où la communauté internationale commémore le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le protocole est le troisième qui a été adopté pour compléter la Convention et il introduit un système de plainte pour que le comité relatif aux droits de l'enfant puisse se pencher sur des situations où il y aura une violation des droits de l'enfant. Donc le protocole reconnaît que les enfants ont des droits fondamentaux et que lorsque ces droits sont négligés, ne sont pas respectés, on ne pourra pas silencier ces situations et il faudra donner aux enfants des moyens de recours effectifs qui permettront de rétablir leurs droits, de les appuyer et d'assurer la réintégration des enfants qui peuvent être victimes de ces violations. Donc il s'agit vraiment d'une contribution très importante pour la sauvegarde des droits de l'homme en général, en reconnaissant que les plus jeunes ont les mêmes droits que tous les autres. Et c'était le seul groupe qui n'avait pas un système de plainte spécifique. Donc c'est vraiment une contribution historique et très très importante.
Alors justement, qui peut porter plainte? Et s'il s'agit des enfants, effectivement, comment est-ce qu'ils peuvent porter plainte?
Alors, le protocole reconnaît qu'il y aura des situations où les enfants seront trop petits, trop vulnérables ou dans une situation de risque qui ne permettrait pas qu'eux directement pourront être en mesure de déposer une plainte. Mais le protocole reconnaît qu'il se peut que d'autres personnes, des institutions de défense des droits de l'enfant, par exemple, le père, la mère, un ami, un avocat, pourra introduire au nom de l'enfant victime une plainte devant le comité des droits de l'enfant. Mais les enfants pourront le faire au cas où ils seront en mesure de porter plainte. La plainte doit concerner un droit reconnu par la Convention des droits de l'enfant ou par l'un des deux autres protocoles relatifs à la Convention. Le premier qui se penche sur les situations d'exploitation sexuelle des enfants, qui interdit toute forme de violence sexuelle à l'encontre des enfants. Et le deuxième qui se penche sur la situation des enfants qui sont victimes dans le contexte d'un conflit armé. Mais la Convention dans son ensemble pourra faire l'objet d'une plainte. Par exemple, un enfant qui se voit interdire le droit à accéder à une école parce qu'il vient d'un autre pays, parce qu'il est migrant dans un pays. Un enfant qui est discriminé parce qu'il a un handicap et l'école, pour utiliser toujours le contexte de l'école, n'est pas préparée pour permettre l'accès de l'enfant à l'enseignement, à une éducation, à son développement et épanouissement. Ou la situation de l'enfant qui se voit privé de liberté sans aucune raison, simplement parce qu'il est abandonné. Toutes ces situations qui représentent un déni des droits fondamentaux de l'enfant pourront faire l'objet d'une plainte. C'est très important de rappeler aussi que le protocole ne se limite pas à des plaintes individuelles qui pourront être introduites par un enfant ou leur représentant. En effet, le protocole admet aussi qu'une plainte soit déposée par un État contre la violation des droits de l'enfant par un autre État. Par exemple, au cas où il y aurait un État qui, de façon systématique, ne reconnaîtrait pas les droits de l'enfant à avoir un avocat, un interprète devant un tribunal et le ferait comme une position de politique de l'État pourrait faire l'objet d'une plainte devant le comité. Bien sûr, pour que ceci se passe, il faudra que ces États concernés reconnaissent la compétence du comité. Mais c'est aussi une possibilité. Et le fait que d'après le protocole, le comité pourra faire des enquêtes si jamais le comité se considère très préoccupé par la situation des droits de l'enfant dans un pays ou par rapport à un thème. Ça pourra encore être le cas du déni du droit à la protection contre la discrimination, ça pourra être le droit à la santé, à l'éducation, à jouir de l'appui de l'État. Et dans ce cas-là, le comité, bien sûr, devra présenter sa requête à l'État concerné, mais pourra se rendre sur place pour vérifier la situation et aider l'État à trouver une façon de dépasser les difficultés que le comité aurait identifiées. Il s'agit d'un protocole qui a la possibilité de toucher à de différentes dimensions des droits de l'enfant et que nous croyons sera très important pour qu'au niveau international, il y aurait la reconnaissance effective des droits de l'enfant. Mais peut-être les deux dimensions qui sont les plus importantes sont le fait que le protocole demande que tous les États assure la diffusion de ce protocole d'une façon qui soit accessible, très facile à comprendre et à utiliser, y compris par les enfants. Et donc, à notre avis, il s'agit d'une obligation très importante qui va aider à ce que le protocole ne soit simplement un texte que les experts débattent dans leur réunion, mais qui vraiment fasse la différence dans le quotidien de chaque enfant, de chaque pays. Et c'est pour cette raison que nous avons développé une version adaptée aux enfants, amiable et très accessible, que nous sommes en train de traduire en différentes langues et en même temps nous travaillons avec les pays pour qu'ils assurent la traduction dans la langue nationale des dispositions du protocole.
Alors, en quoi consiste cette version amiable, justement, du protocole, cette version accessible aux enfants ?
C'était une initiative très intéressante parce que nous l'avons développée avec l'appui de plusieurs enfants et jeunes dans de différentes régions qui nous ont aidés à décodifier d'une certaine façon les concepts plus techniques et difficiles du protocole pour que tout enfant puisse comprendre ce que le protocole dit et qui présente d'une façon très facile le menu d'étapes que si jamais l'enfant se sent victime de la violation d'un de ses droits fondamentaux pourra suivre pour aboutir à ce que la plainte soit présentée devant le comité et soit suivie par le comité et que l'enfant se sente écouté et appuyé dans sa requête. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les couleurs, la forme de cette publication ont été définis vraiment avec les jeunes pour que vraiment les enfants eux-mêmes puissent se sentir à l'aise dans l'utilisation de ce protocole.
Vous pouvez la décrire un peu, ces couleurs, cette mise en page, cette mise en forme en fait ?
Et bon, tout d'abord, ils nous ont dit il y a des mots très difficiles, mais il faut absolument qu'on comprenne ces mots pour bien les utiliser. Donc, il faut les expliquer, mais ne pas les effacer de la publication. Deuxièmement, il faut présenter une version qui soit sérieuse, accessible, mais en même temps qui nous donne l'espoir. Donc, les couleurs ne peuvent pas être trop proches du noir ou des couleurs foncées. Il faudra donner des couleurs de joie et d'espoir, et en même temps qui soient sensibles pour les garçons et pour les filles. Donc, il y a des photos et des dessins qui sont inclus dans la publication où nous voyons de jeunes filles, très très jeunes, et puis des adolescentes, mais aussi des garçons qui approchent les adultes pour demander leur aide ou qui essayent de diffuser de l'information auprès d'autres enfants ou des adultes pour que tout le monde soit vraiment averti à l'égard du protocole. Et c'est tout cet ensemble qui nous fait croire que la diffusion de cette version amiable va nous aider à rendre le protocole plus proche de chaque enfant et non pas comme quelque chose dont on parle aux Nations Unies, mais les autres ne connaissent pas. Ça va faire la différence.
Quelque chose de moins abstrait. Est-ce que les violations sont illustrées pour que l'enfant comprenne qu'est-ce qui constitue justement une violence sexuelle ou un droit bafoué, en fait ?
Par exemple, des situations de châtiment corporel à l'encontre des enfants, les dessins le représentent, mais pour trouver la solution. Non pas pour placer les enfants dans la situation de se sentir sans une voie de sortie, sans une porte qui s'ouvre avec un espoir différent. Et donc, c'est cette approche que nous avons essayé de représenter.
Ô jeune homme, ô jeune fille, offre-moi ton cœur, que je puisse répondre au grand provocateur qu'il te Alors, comment est-ce qu'un enfant peut porter plainte? Et pourquoi est-ce qu'un enfant choisit de porter plainte auprès du comité plutôt que dans les instances locales, nationales?
Ça, c'est une mesure très importante à souligner. En fait, le vrai but du protocole n'est pas de déposer des plaintes devant le comité des droits de l'enfant. C'est l'objectif final, donc c'est très important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de garantir que, justement, au niveau local et national, il y a des moyens de recours effectifs qui sont très proches de l'enfant et dont l'enfant peut faire l'utilisation accessible et en comprenant quelles sont les voies à suivre, quels sont les défis, quelles sont les difficultés ou les possibilités. Et c'est pour cela que, justement, l'un des objectifs du protocole est d'appuyer les États à établir des institutions qui puissent promouvoir de l'information pour les enfants, qui puissent être à l'écoute des situations des enfants. Et donc, nous voulons beaucoup que la diffusion de l'information, l'établissement d'institutions de défense des droits de l'homme, comme le défenseur des droits de l'enfant, le réseau de protection nationale autour de l'enfant, avec la participation de la société civile aussi, et bien sûr de tout département de l'État qui a la responsabilité de sauvegarder les droits de l'enfant, puisse faire une immense alliance pour que la prévention des violations, tout d'abord, mais la réponse rapide aux situations de violation soit la réalité et non pas s'attendre à qu'un comité un peu écarté de la réalité nationale puisse un jour intervenir. Et la dimension intéressante du protocole est justement que toutes ces étapes au niveau national, et c'est nécessaire au niveau international, aient une célérité très visible. Le protocole mentionne très souvent, dans les 6 mois qui suivent la violation des droits de l'enfant, dans le plus bref délai et jamais au-delà de 6 mois. Et donc il y a cette notion que le temps pour un enfant semble toujours une éternité. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une violation de leurs droits fondamentaux, pour les enfants, ça veut dire une immense éternité. Et donc, il faut toujours essayer de trouver des réponses rapides qui fassent la différence pour que l'enfant ne soit en risque le jour suivant, une fois encore.
Alors, je suis un enfant et j'ai fait l'objet d'une violence.
Qu'est-ce que je peux faire?
Voilà.
Alors, l'enfant peut s'adresser à un défenseur des droits des enfants, au cas où il existe dans le pays, et demander de l'aide, raconter son histoire. Il faut que la plainte soit présentée, hein, même si c'est d'une façon très facile et pas trop solennelle, d'une façon écrite. Il faut que les faits soient établis. Il faut qu'il y ait des preuves que quelque chose de pas correct s'est passé. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un avocat à côté de l'enfant. Donc, le comité va recevoir une plainte qui est décrite d'une façon complète, avec les moyens de preuve, pour permettre d'enquêter sur la situation et de demander à l'État de donner son point de vue.
Mais ça, c'est une fois la voie locale et nationale
épuisée. Donc, si jamais, pendant trop longtemps, il n'y a pas de réponse de la part de l'État, s'il n'y a pas de solution qui, en fait, mette fin à la violation des droits de l'enfant, accorde une réparation, identifie qu'est-ce qui n'était pas correct et qu'est-ce qui devrait changer, alors le comité des droits de l'enfant pourra être impliqué.
Donc, c'est un moyen de faire pression, quelque part?
De faire pression, mais d'obtenir une décision. Une décision qui inclura non simplement la reconnaissance de la violation des droits de l'enfant, mais qui présentera à l'État des recommandations que l'État devra suivre. Par exemple, changer la législation, reconnaître le droit à la réparation à l'enfant victime. Et le comité pourra se réunir périodiquement avec les États pour voir quel était le suivi assuré aux différentes plaintes qui ont été établies par le comité.
Combien d'États sont concernés aujourd'hui, non seulement par la Convention, mais aussi par les protocoles?
Alors, la Convention est le traité le plus largement ratifié dans l'histoire des traités des Nations Unies. La Convention est en vigueur au sein de 193 pays. Il n'y a que la Somalie et les États-Unis qui n'ont pas encore ratifié la Convention. Ça, c'est historique, bien sûr. Mais les protocoles sur les enfants en conflit armé est ratifié par 152 pays. Et le protocole sur l'exploitation sexuelle, prostitution et pornographie infantile est en vigueur au sein de 166 États. Alors, ce nouveau protocole qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011, il vient d'entrer en vigueur. Donc, il a été ratifié par 10 pays. C'est encore le début d'un processus. Mais c'est vraiment un début qui ouvre une porte d'espoir vers un changement où les requêtes devant le comité des droits de l'enfant ne seront pas nécessaires parce que la réalisation des droits de l'enfant se passe au sein de chaque pays. C'est ça notre espoir.
Et c'est avec Marta Santos Pais, la représentante spéciale du secrétaire général chargée de la question de la violence à l'encontre des enfants, que se referme ce magazine. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.